Donc, nous allons continuer avec les paraboles du Christ. Nous avons vu dans le cours précédent ce que signifiait l'enseignement du Seigneur en paraboles, le lien entre le procédé parabolique et le machal hébreu, machal étant traduit par parabolé dans le grec des Septante. Nous avons vu également de quoi est composée une parabole, puisqu'elle est une comparaison devant nous conduire à une réalité spirituelle et l'impossibilité qu'il y a de la réduire à une simple allégorie. La parabole a différents niveaux de signification, qu'ils soient prophétiques, historiques, eschatologiques ou qui concernent directement la pratique de la vie spirituelle. Nous avons vu aussi qu'il est nécessaire d'être en capacité intérieure de passer d'un niveau à l'autre de la comparaison, faute de quoi on reste à la surface du discours du Christ, et ceci dépend de deux dispositions en nous. La première, ça concerne l'écoute attentive de cette parole que le Christ adresse à ses auditeurs au travers du récit parabolique. La seconde, c'est l'accueil intérieur de la signification du récit pour que la parabole produise ses fruits en nous. Nous avions vu également combien ce langage de la parabole était particulièrement approprié pour rendre compte de réalités qui ne sont pas discibles comme telles, parce qu'elles échappent à toute logique conceptuelle, mais pouvant seulement être perçues, senties, appréhendées au moyen de la foi, parce que la parabole du Christ appelle une réponse de l'homme, et cette réponse de l'homme l'engage tout entier. Dans l'évangile de saint Matthieu qui nous occupe, l'enseignement du Christ en parabole commence au chapitre 13, faisant suite aux paroles précédentes, donc celles du chapitre 12, où il annonce ouvertement devant les pharisiens qui l'accusent d'expulser les démons par Béelzéboul. Et voici ce qu'il leur dit. « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu, je ne cite pas ce qui précède, hein, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume est au milieu de vous. C'est donc que le royaume est au milieu de vous. » La venue du Christ, la venue du roi Messie, c'est la venue du royaume au milieu de nous. Et royaume qui, nous le savons, n'est pas de ce monde. Royaume qui est déjà à l'œuvre au sein de ce monde qui croit, sens de croissance. Et cela, bien sûr, les chefs religieux des Juifs ne l'admettaient pas. Ils demandent, par exemple en 1238, à nouveau un miracle, alors que le Seigneur avait déjà opéré bon nombre de signes pour prouver qu'il était bien le Messie attendu. Mais pour autant, il ne correspondait pas à la représentation que ces chefs des Juifs se faisaient du Messie. Alors, ce n'est pas mon sujet de ce jour, mais je crois qu'il est important de travailler sérieusement cette question, sans pensée réductrice par ailleurs, car elle est de nature à éclairer l'opposition des pharisiens au Christ qui parcourt tout l'Évangile. On trouvera dans la littérature pharisienne un recueil très intéressant qui s'appelle « Les psaumes de Salomon », lesquels, bien sûr, diffèrent des psaumes de David utilisés pour la prière de l'Église, pour la prière publique de l'Église, comme pour la prière personnelle des fidèles. Cette collection de psaumes dits de Salomon, en contient 18, et le 17e de ces psaumes décrit la figure du roi Messie vue par les pharisiens. Et cette description est très éclairante à cet égard pour montrer quelle était la conception, comment les pharisiens voyaient le Messie qui devait venir. Alors si j'ai le temps à la fin, j'en donnerai lecture, sinon on en reparlera lors du prochain cours. Donc revenons à notre 13e chapitre de l'évangile de saint Matthieu. Il commence par ces versets. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. En fait, de lac, c'est ce qu'on appelle la mer de Génézareth. La note en bas de page de la Bible de Jérusalem est à cet égard surprenante pour expliquer ces versets. Je cite. Cette expression stéréotypée est une simple transition sans valeur chronologique. Fin de citation. Je trouve vraiment cette note en bas de page de la BJ très dommage, pour ne pas dire plus. Parce qu'ici, au contraire, nous voyons le Seigneur dans la posture de l'enseigneur. Et la distance entre lui qui est sur la barque et la foule qui est sur le rivage montre bien que celui qui enseigne, c'est le Verbe de Dieu fait homme, c'est le Messie venu accomplir les promesses divines annoncées par les prophètes. D'ailleurs, au demeurant, cette posture est familière dans les évangiles, cette posture de Jésus enseigneur. Donc, au chapitre 13, s'ouvre le discours parabolique avec les 7 paraboles du royaume et avec, dans ces paraboles, pas toutes, mais dans certaines d'entre elles, une expression caractéristique. Le royaume des cieux est semblable à... Et l'histoire continue. Et nous l'avions vu la dernière fois avec la parabole du grain de sénévé que j'avais pris comme exemple en raison même de sa brièveté. Mais je m'empresse de dire que brièveté ici ne signifie pas absence de profondeur, bien au contraire. Alors ces paraboles dans le chapitre 13 de saint Matthieu, quelles sont-elles? Nommons-les. Il y en a 7, comme je viens de dire, la parabole du semeur, celle du bon grain et de l'ivraie, celle du grain de sénévé, que nous avons vu la dernière fois, celle du levain, celle du trésor caché, celle du marchand de perles et, pour finir, celle du filet. La parabole du semeur qui nous occupe aujourd'hui, elle introduit aux autres paraboles dans l'évangile de saint Matthieu, et elle est d'ailleurs la première parmi les paraboles dans les 3 évangiles synoptiques. Elle revêt de plus une importance particulière aux yeux même du Seigneur, puisqu'il dit dans l'évangile de saint Marc, chapitre 4, verset 13, « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres ?» De plus, cette parabole du semeur est avec la parabole du bon grain et de l'ivraie, la seule qui reçoit une explication du Christ lui-même et qui est en quelque sorte, cette explication, une clé pour interpréter les autres paraboles. Je rappelle d'ailleurs à ce titre que ces paraboles ont pour but de nous révéler le mystère du royaume de Dieu, et la révélation de ce mystère est très directement liée au dévoilement de la personne même de Jésus-Christ. Donc si vous le voulez bien, entrons dans cette parabole du semeur qui commence par la description d'une situation familière et bien connue des auditeurs de Jésus. Donc une réalité empruntée à la vie quotidienne, comme d'ailleurs dans toutes les paraboles, ainsi que je l'avais précisé la fois précédente. Un semeur sorti pour semer sa semence. Tout à l'heure, nous avons vu, dans les versets qui introduisent le chapitre 13, la mention suivante, « Jésus sorti de la maison ». Et faire le rapprochement entre Jésus sorti de la maison et un semeur sorti pour semer sa semence, eh bien, ça n'est pas fortuit. Voici ce que nous dit Saint Jean Chrysostome dans sa 44e homélie sur Saint Matthieu. Je cite « Un semeur sorti pour aller semer son grain. D'où est-il sorti ? Celui qui est présent partout, qui remplit l'univers entier. Comment est-il sorti ? Ce n'est point matériellement, c'est par une disposition de sa providence à notre égard, en se revêtant d'une chair qu'il s'est rapprochée de nous. Parce que nous ne pouvions pas aller jusqu'à lui, nos péchés nous en interdisant l'accès. Il est sorti jusqu'à nous. Et pourquoi est-il sorti ? Est-ce pour détruire une terre où les épines foisonnaient ? Est-ce pour punir les cultivateurs ? Ne le croyez pas, ajoute Saint Jean Chrysostome. Il vient pour cultiver cette terre, pour la féconder, pour y semer la doctrine de la piété. La semence dont il parle, en effet, sa doctrine, le champ, l'âme du Seigneur. Oui, la semence dont il parle, en effet, est sa doctrine. Le champ, c'est l'âme de l'homme, pas du Seigneur. Le champ de l'âme de l'homme. Le semeur, c'est le Seigneur lui-même. Fin de citation. Et pour cela, si l'on fait référence au premier verset du 13e chapitre, il est sorti de la maison du Père, eh bien, on peut rapprocher ce que dit Saint Jean Chrysostome de cette sortie de la maison du Père. Bon, dans le premier verset, il n'est pas dit « il est sorti de la maison du Père », il est sorti de la maison. Mais on peut dire aussi qu'il est sorti de la maison du Père, eu égard à ce que vient de nous dire Saint Jean Chrysostome. Alors l'image des semailles, ai-je dit, était immédiatement compréhensible aux auditeurs de Jésus. Et puis, par ailleurs, ce thème était connu dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas fait la recension de tous les versets de l'Ancien Testament qui concernent ce thème. Je me souviens simplement, pour l'avoir lu récemment, qu'au quatrième livre d'Esdras, il est dit « Voici, je sème, c'est Dieu qui parle, voici, je sème ma loi au-dedans de vous pour qu'elle vous réjouisse. » C'est au chapitre 9, verset 31. Donc, c'est une scène familière que celui du cultivateur qui, à la saison des semailles, fait le geste de répandre la semence dans son champ avec la plus grande régularité possible, bien sûr. Là, donc, en nous disant cela, la parabole va nous parler de quatre terrains dans lesquels va tomber la semence. Les quatre terrains sont les suivants, le chemin, le sol pierreux, rocailleux, les épines, le champ parsemé d'épines, et la bonne terre. Le premier terrain, donc, le chemin, dont le sol est rendu trop dur, parce qu'il est régulièrement emprunté par ceux qui vont d'un terrain à l'autre, d'un champ à l'autre. Donc il est rendu trop dur, et de ce fait, la germination de la graine et sans possibilité réelle. Et les grains restent quasiment à la surface du sol et ils sont mangés, nous dit la parabole, par les oiseaux du ciel. Donc il s'agit là d'un premier échec des semailles qui sera suivi de deux autres échecs, comme nous allons le voir. D'autre part, ce premier terrain correspond à un premier type d'homme. Deuxième terrain, le terrain qui est composé de rocailles. La situation est un peu meilleure que dans le cas précédent, mais la couche de terre est très faible, de telle sorte que la germination est trop rapide. La croissance de la graine, eh bien, elle est stoppée par la rocaille, hein, tout simplement. Et la semence est brûlée par les rayons du soleil, faute de pouvoir planter ses racines profondément et de bénéficier de l'humidité de la terre. C'est donc le deuxième échec, et qui correspond au deuxième type d'homme. Le troisième terrain, donc où les épines sont nombreuses, c'est un terrain qui n'est pas propice lui aussi. Il est empli d'une végétation mixte, le sol a été mal préparé, et de ce fait, la semence va être étouffée par les épines dont la croissance est plus forte, plus vigoureuse que celle des graines qui sont plantées dans ce sol. Donc c'est le troisième échec et ça correspond au troisième type d'homme. Et le quatrième terrain, c'est la bonne terre. Là, la semence va être plantée dans un sol fertile. Elle va pouvoir plonger des racines profondes et croître de sorte qu'elle donnera de bons rendements. Je ne parle pas de rendement, mais j'emploie ce terme à dessein. Quoique ils seront différenciés selon les parties du terrain. Certaines graines en donneront 100, d'autres 60, d'autres 30. Mais bon, pour le moment, considérons que la récolte est abondante et ce quatrième terrain correspond au quatrième type d'homme. Alors, une fois cette description faite, comment expliquer, alors qu'à l'évidence, dans le récit de la parabole, le semeur n'est autre que le Christ lui-même, comment expliquer ces trois échecs successifs? Avant l'abondante récolte des grains qui sont tombés dans la bonne terre, c'est-à-dire le quatrième terrain. Est-ce qu'il y a une caractéristique commune à ces échecs? Est-ce qu'il n'intervient pas un élément destructeur qui anéantit la germination dans les trois terrains précédents? Et ne faut-il pas mettre, également, autre question, ne faut-il pas mettre ces trois échecs en résonance avec les récits précédents des chapitres 11 et 12 de saint Matthieu, où l'on parle, où le Christ parle du royaume des cieux, mais non pas en parabole, là, et on insiste dans ces chapitres-là, 11 et 12, sur la résistance que rencontre Jésus au sein même de son peuple. Pourquoi, autre question, la récolte abondante de la fin de la parabole se fait-elle, somme toute, au prix de pertes considérables? Et dans ces conditions, Il faut bien remarquer que Jésus, qui se présente comme le Messie, ne pouvait-il pas susciter autre chose que la contradiction ? D'un côté, l'adhésion enthousiaste, mais aussi le rejet le plus agressif. Autant de questions que nous devons nous poser pour entrer plus avant dans l'intelligence de notre parabole. Alors, pour répondre à ces questions, je vous invite encore à suivre notre père parmi les saints, Jean Chrysostome. Mais auparavant, je dirais que le divin maître ne fait exception de personne. Au travers de la comparaison de la semence, il signifie que sa parole s'adresse à tous sans distinction. Et je cite Saint Jean Chrysostome à ce propos. « Dans cette parabole, le divin maître nous enseigne qu'il s'adresse à tous indistinctement. » C'est ce qui vient d'être dit. « Il n'établit aucune division entre le riche et le pauvre, entre le savant et l'ignorant, entre le négligent et le fervent, le courageux et le timide. Sa parole concerne tout le monde. Autrement dit, le Christ sème dans tous les terrains humains. Mais alors pourquoi ces échecs ? La question persiste. Le semeur de l'Évangile est sorti pour semer, et je cite à nouveau Chrysostome, et comment est-il arrivé que la partie principale de la semence ait péri ? La faute n'est pas à celui qui la répand, mais à celui qui la reçoit, je veux dire à l'âme qui n'écoute pas. » Fin de citation. Et nous apprenons ainsi, par ce que nous dit le Christ dans l'explication de la parabole, qui commence au verset 16, et en gardant en mémoire les paroles de Jean Chrysostome, que le problème de l'échec trois fois rencontré ne réside pas dans la semence, qui est le message du Christ, mais d'abord dans le cœur de ceux qui entendent la parabole. L'état de leur cœur, en fait, correspond, ou plus exactement, les quatre terrains qui sont décrits dans la parabole rendent compte de l'état du cœur des hommes, des différents états du cœur des hommes. Car l'évangile de Matthieu nous le dit au chapitre 15, verset 19, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, et c'est le Christ qui parle. Et Saint Macaire d'Égypte, moine au désert d'Égypte au IVe siècle, dira, parlant du cœur, je cite, « Le cœur dirige tout l'organisme, et lorsque la grâce reçoit le cœur en partage, elle règne sur toutes les pensées et sur tous les membres, car là est l'intellect et toutes les pensées de l'âme. » Et il ajoute, la citation continue, c'est donc là qu'il faut regarder si la grâce y a gravé les lois de l'esprit. Dans ce cœur qui est, ajoute-t-il, le trône de la grâce, où se trouve l'intellect et toutes les pensées de l'âme. Fin de citation. Alors, tous les pères insisteront à la suite du Seigneur dans l'Évangile sur la nécessaire purification, la nécessaire pureté du cœur. Et l'explication que le Christ donne de la parabole du semeur, qui commence au verset 16, eh bien, elle s'apparente à une véritable prédication du royaume. La parole rend compte du mystère du royaume des cieux. Au verset 19, la parabole est assimilé à l'écoute de la parole du royaume. C'est l'expression qu'emploie l'évangile de Saint Matthieu. Et donc, la semence de la parabole est donc la bonne nouvelle du royaume de Dieu, le message de l'évangile, du salut. Et cette semence qui est semée, c'est la parole du Christ, royaume de Dieu au milieu de nous. Cette parole qui est semée est reçue de différentes manières, car là où le terrain n'est pas propice, le malin, l'adversaire, empêche toute germination, toute croissance. Cette parole, elle est vie, vie nouvelle du royaume de Dieu, parole qui a comme propriété d'avoir la puissance de recréer l'homme, d'en faire une nouvelle créature. Et saint Pierre nous dit dans sa première épître, en parlant du pouvoir recréateur de la semence de vie semée par le Christ, je cite, « En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, à travers la parole vivante et permanente de Dieu. » Et là, il va citer Isaïe 40, « Car toute créature est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Là, c'est la fin de la citation d'Isaïe 40, verset 6-8, que l'on trouve donc dans l'Ancien Testament. Et saint Pierre poursuit, « Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Ces versets sont tirés donc de la première épître de saint Pierre, premier chapitre, versets 23-25. On trouve également donc des références de ce type chez saint Paul et chez saint Jacques qui nous dit « Rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. » Jacques 1, 21. Donc, cette semence de vie, semence incorruptible qui produit du fruit, elle est vie éternelle. Cette semence dont le semeur est le Seigneur lui-même, la parole semence de vie, s'identifie, on peut dire, au semeur, eh bien, elle agit sur quatre types de terrains, quatre types d'hommes, car la description des terrains dans la parabole renvoie très explicitement dans l'explication de cette parabole à quatre types d'hommes. Mais il ne faut pas forcer le trait, on peut être alternativement ces quatre types d'hommes dans une vie chrétienne. Ils n'ont pas forcément successivement. Ça se mélange en nous. Ce que le Seigneur veut ici montrer, c'est que la parole agit différemment selon l'état intérieur de l'homme et selon les dispositions de son cœur. La semence est répandue pour tous, comme nous le disait tout à l'heure saint Jean Chrysostome, mais sa croissance, elle est très directement liée à l'état intérieur de l'homme. Alors bien sûr, dans nos vies, on peut toujours accueillir de différentes manières cette parole de l'évangile de vie, mais au fond, il n'y en a qu'une qui est agréée et reconnue par le Christ, c'est celle qui porte du fruit. Le fruit de la purification du cœur, le fruit de la purification des pensées, pour faire place nette au Christ qui veut demeurer en nous. Donc dans le premier cas, le chemin, la parole n'a aucune prise, aucune efficace. Pourquoi ? Parce que elle est plantée dans un cœur qui est fermé, dans un cœur qui est endurci. On sait combien joue négativement dans l'Écriture sainte le thème du cœur endurci. Et de ce cœur-là, qui est fermé, qui est endurci, le malin s'en est emparé. L'adversaire, finalement, en est le maître. La parole, donc, ne peut habiter chez cet homme, et cet homme n'est pas un terrain favorable pour qu'elle puisse y germer. Alors, ce qui est décrit là, c'est l'homme qui est habité par ses passions. Enfin, ce qui est suggéré, plus exactement, c'est pas décrit tel quel, mais ce qui est suggéré là, parlant de ce type d'homme, c'est l'homme qui est habité par ses passions, qui sont légions, et lesquelles le tiennent en esclavage, et dont le maître est le malin, qui joue comme un chef d'orchestre parmi ses passions, et qui agite les unes et les autres ensemble, alternativement ou successivement. Et ici, il est représenté par les oiseaux du ciel qui mangent les graines tombées sur le chemin. Donc on peut noter aussi, et c'est important, je crois, la répétition à 4 reprises pour décrire les 4 types d'hommes de l'expression, ça c'est dans l'explication, hein, de l'expression « celui qui entend la parole ». Au verset 19, « lorsqu'un homme entend la parole et ne la comprend pas ». Au verset 20, celui qui a reçu la semence dans le sol rocailleux, c'est celui qui entend la parole, et etc. Au verset 22, et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, et la suite. Verset 23, et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, et la suite. Donc, à 4 reprises, cette expression « celui qui entend la parole » est répétée, et elle est suivie de la description de 4 comportements qui reflètent l'intériorité de l'homme qui entend la parole, des 4 types d'hommes qui entendent la parole. Le premier, il est dans l'incompréhension. Le texte nous dit il entend la parole du royaume et ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Bon. Donc, premier type de comportement par rapport à l'écoute de cette parole, c'est l'incompréhension, parce que le cœur est fermé. Deuxième comportement, qui correspond au deuxième terrain et au deuxième type d'homme, c'est celui qui reçoit la parole dans la joie. Alors je cite, celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Donc c'est déjà différent de la première situation, mais cet homme n'a pas de racine. Il est, nous dit l'Évangile, l'homme d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés, la persécution à cause de la parole, ce sont autant d'occasions de chute. L'archiprêtre Alexandre Yuravsky, je n'ai pas avec moi la citation, mais je l'ai quelque peu en mémoire, pour décrire à peu près ce type d'homme, dit que il écoute l'Évangile, il le reçoit avec joie, mais dès que les difficultés surviennent, il tourne le dos et il peut même aller jusqu'à dire avec la foule au prétoire de Pilate, « Crucifie-le, crucifie-le ». Le troisième comportement, c'est celui d'un esprit encombré, donc après l'homme qui n'a pas de racines, celui qui a reçu la semence parmi les épines, donc le terrain c'est les épines, donc il entend la parole comme les trois autres, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc c'est un esprit intérieurement encombré, qui est attiré par une multitude de préoccupations, les soucis du monde, l'attrait trompeur des richesses, et les richesses dont il s'agit ici, c'est pas forcément sous forme d'argent, ça peut être aussi des richesses immatérielles. Bref, c'est là est son cœur, là où sont ses richesses. Là où sont vos richesses, là est votre cœur, il est dit dans l'Évangile. Donc c'est la marque d'un esprit qui est encombré de tout un tas de choses qui font écran, finalement, à toute forme de repentir, à toute forme de purification, qui empêche tout combat contre les passions intérieures, et dans ce cœur-là, le maître ne peut pas venir. Et le quatrième comportement, bien sûr, c'est la compréhension. Quand on parle de compréhension, là, évidemment, c'est l'antithèse du premier comportement qui était l'incompréhension, mais la compréhension là n'est pas simplement au niveau intellectuel. C'est une compréhension qui engage complètement l'homme dans le combat spirituel. Donc on passe au travers de ces quatre types de comportements, de la fermeture, de l'endurcissement du cœur, à la compréhension, à l'ouverture, à l'accueil, à la mise en pratique. À la mise en pratique, ça c'est fondamental, ça revient explicitement ou implicitement comme un leitmotiv, à la mise en pratique de la parole de vie pour porter du fruit. Et comprendre ou ne pas comprendre, ça signifie aussi être sauvé ou ne pas être sauvé, puisque ça nous engage complètement. Alors, dans les trois premiers cas que nous avons évoqués, les trois premiers types d'hommes, les trois premiers types de comportements, les trois premiers états du cœur de l'homme, les trois premiers états de l'intériorité de l'homme, la parole du Christ ne pénètre pas véritablement. Le cœur ne s'ouvre pas à la foi, et comme il ne s'ouvre pas véritablement à la foi, il ne s'ouvre pas au commandement du Christ, à la pratique des commandements du Christ. Il ne s'ouvre pas véritablement au repentir, à la purification intérieure, à ce qu'on appelle la métanoïa, donc le retournement vers Dieu. Donc dans les trois premiers cas, il n'y a pas de signe d'une foi en acte, d'une foi véritable, d'une foi vraiment authentique. Et c'est pourquoi la parole, dans ces cas-là, ne peut éclore et ne peut planter en eux les arts de l'incorruptibilité. Et voyez-vous, ici sont décrits de manière réaliste les nombreux obstacles, je parle des comportements, les nombreux obstacles que la parole de vie rencontre pour germer dans le cœur de l'homme. Endurcissement, manque de racines, difficultés, persécutions qui sont occasion de chute, préoccupations qui nous éloignent de Dieu, soucis du monde, attrait des richesses matérielles ou immatérielles. Ça, c'est une chose, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'en arrière-fond, derrière tout ça, il y a le combat que mène l'adversaire contre le Christ à l'intérieur même de l'homme. Ça, c'est toujours en arrière-plan, ça. Mais c'est bien présent, évidemment. C'est bien présent. Alors, en suivant le récit, nous voyons que l'enseignement de la parabole s'adresse aux disciples et à la foule, et les disciples demandent une explication. C'est dit au verset 9, de manière, peut-être, d'abord pour comprendre, mais aussi pour ne pas perdre courage par rapport aux échecs que rencontre cette semence de la parole divine. Et Saint Jean Chrysostome ajoute toujours dans sa 44e homélie, « Et quand bien même le nombre des âmes fidèles à recevoir la semence serait inférieur à celui des âmes qui doivent en abuser, » dit Chrysostome. « Car en fait, le Christ ne cesse, » ça c'est très important à souligner, « le Christ ne cesse de répandre la semence du royaume, mais si à vue humaine, si à vue humaine, si on se reporte à la première partie, à la description de la situation familière des semailles. Donc, si on se rapporte à cette partie-là, si à vue humaine, il n'est pas raisonnable de semer en tout terrain, c'est ce qu'on gâche de la semence, il en va tout autrement quand il s'agit des choses du salut, comme va nous le dire encore Saint Jean Chrysostome, je cite, mais est-il, c'est vraiment une parole très profonde là, mais est-il raisonnable, demandera-t-on, de le répandre sur la pierre au milieu des épines le long du chemin? Il parle des grains. S'il s'agissait d'une semence matérielle et de la terre, ce ne serait pas raisonnable. Mais quand il s'agit des âmes et de la doctrine, la chose est au plus haut degré digne d'éloge. On reprocherait justement à un cultivateur de le faire. La pierre ne saurait devenir de la terre. Les épines ne peuvent pas ne pas être des épines. Le chemin ne peut pas ne pas être le chemin. Et il ajoute, dans l'ordre des choses de l'âme, il n'en est pas ainsi. La pierre peut y être transformée en une terre fertile. Le chemin peut n'être plus foulé par les passants et devenir un champ fécond. Les épines peuvent être arrachées et permettre au grain, une fois débarrassé, de fructifier. Si tout cela n'était pas possible, le semeur n'aurait point répandu son grain. Si cette transformation n'a point été toujours opérée, Cela dépend non du maître du champ, mais de ceux qui ont refusé de se soumettre. Le semeur a rempli toute sa tâche. Si le grain par lui a été gaspillé, il n'en résulte aucune charge contre l'auteur d'un tel bienfait. Soyez bien, s'il vous plaît, persuadés qu'il n'y a pas qu'une seule voie de perdition, qu'il y en a beaucoup, et qu'elles sont bien différentes les unes des autres. C'est la fin de la citation de Saint Jean Chrysostome. Et il dira par la suite dans cette homélie que pour éviter les trois premières situations, plus exactement pour ne pas correspondre aux trois premières situations de la parabole et des comportements qui en découlent, eh bien, le remède consiste à graver profondément dans notre mémoire et à cacher avec un soin jaloux la divine parole. Ainsi, dit-il, le diable aura beau ravir autour de nous, il dépendra toujours de nous qu'il ne puisse rien ravir. Alors, c'est une manière de dire que les trois états de la parabole qui entraînent l'échec des semailles ne correspondent pas en quelque sorte à des enfermements, mais à des états intérieurs dont on peut sortir avec l'aide de Dieu. Et ici, il est fortement souligné justement la responsabilité et la liberté de l'homme qui est pleine et entière. Enfin, je dirais pour terminer que la germination, il est dit de la germination dans la quatrième terre qu'elle produit des rendements différenciés, 100, 60 ou 30 selon les cas, et ça signifie que Dieu n'exige pas la même chose pour tous. Ici peut-être on rejoint quelque part la parabole des talents. Mais pour ce qui nous occupe, effectivement, c'est bien l'affirmation que Dieu n'exige pas la même chose pour tous. Voilà ce que l'on peut dire sur cette parabole du semeur, bien sûr, sans prétention, parce que on peut trouver encore d'autres niveaux de signification, on peut aller plus loin, mais je rappelle qu'ici, on est dans le cadre d'un cours de propédeutique qui a pour but de mettre sur le chemin de l'étude. Et donc voilà ce que je voulais vous dire concernant cette parabole. Alors j'ai peut-être encore le temps de vous lire, mais j'y reviendrai dans ces cours sur les paraboles, de vous lire ce dont j'ai parlé au début, le psaume 17 qui fait partie du recueil des psaumes de Salomon. Ce recueil des psaumes de Salomon, c'est un recueil écrit par un ou plusieurs pharisiens probablement dans la deuxième moitié du premier siècle avant notre ère, ce pharisien était-il aussi prêtre au temple de Jérusalem, bien qu'il y ait eu peu de prêtres parmi les pharisiens, mais on peut le supposer parce que ces psaumes accordent une importance très grande à la question de la profanation du temple, profanation qui était intervenu lors de la conquête de Jérusalem par Pompée aux alentours des années 60 avant notre ère. Ces psaumes, qui appartiennent donc à la littérature pharisienne, montrent que leur auteur au singulier ou leurs auteurs ont une connaissance très approfondie de l'écriture vétérotestamentaire, et que dans ces psaumes, ils interprètent assez longuement, ils donnent une interprétation longue et très intéressante au demeurant des prophéties d'Isaïe et d'Ézéchiel. Alors, je crois que on a tout intérêt à connaître ces textes pour comprendre la différence entre la représentation du Messie telle qu'elle existe chez les pharisiens et telle qu'elle apparaît dans l'Évangile, dans la personne du Christ. Donc je vais vous donner lecture de ce psaume 17 du recueil des psaumes de Salomon qui en comporte 18. On parle du roi Messie. Je ne vais pas le citer. Il a 53 versets, je ne vais pas tous les citer. Je vais partir du verset 23 pour aller au verset 42. « Vois, Seigneur, et suscite leur roi, fils de David, à l'époque que tu connais, toi, ô Dieu. » Alors, suscite-leur, c'est aux Hébreux, bien sûr. « À l'époque que tu connais, toi, ô Dieu, pour qu'il règne sur Israël ton serviteur, et ceins-le de la force pour briser les princes injustes. Purifie Jérusalem des païens qui la foulent, en les perdant de manière à chasser les pécheurs de l'héritage, par la sagesse, par la justice, de manière à briser l'orgueil des pécheurs comme des vases de potier, de manière à briser avec une verge de fer toute leur substance, de manière à détruire les païens impies d'une parole de sa bouche, de manière que devant sa menace les païens s'enfuient loin de son visage, enfin de manière à reprendre les pécheurs par la parole de leur cœur. Les pécheurs dont il s'agit ici, ce sont bien sûr les Israélites qui se sont éloignés de la loi, qui sont tombés dans le péché. Alors il rassemblera le peuple saint qu'il conduira avec justice, et il gouvernera les tribus du peuple sanctifié par le Seigneur son Dieu. Il ne laissera pas l'iniquité séjourner encore parmi eux, et aucun homme sachant le mal n'habitera avec eux. Car il les connaîtra comme étant tous les enfants de leur Dieu, et les répartira dans leurs tribus à la surface du pays. L'immigré et l'étranger ne demeureront plus avec eux. Il jugera peuples et nations dans la sagesse de sa justice, et il aura les peuples païens pour le servir sous son joug. Il glorifiera le Seigneur à la vue de toute la terre. » Donc ça, c'était de 23 à 32, et plus loin, de 42 à 44. « Il ne faiblira pas pendant ses jours appuyé sur son Dieu, car Dieu l'a fait puissant par l'Esprit Saint, et sage par le don de conseils éclairés, accompagné de la force et de la justice. La bénédiction du Seigneur est avec lui dans la force, et il ne faiblira pas. Son espérance s'appuie sur le Seigneur, et alors qui est puissant en comparaison de lui ? Il est puissant dans ses œuvres, et fort par la crainte de Dieu. » Donc voilà, c'est un excursus hein, par rapport à mon sujet, mais ce psaume 17 que je vous invite, ce psaume 17 donc du recueil des psaumes de Salomon, que je vous invite à lire et à étudier aussi, nous éclaire bien sur la différence entre la conception du Messie qui est porté par les pharisiens, et la figure du Messie, la figure de Jésus-Christ, Messie, promis à Israël. Il y a beaucoup de points de différence, et en particulier le premier d'entre eux, c'est que le royaume dont on parle ici est un royaume terrestre, le royaume messianique de Jésus n'est pas de ce monde. et la puissance du roi Messie dans l'Évangile s'accomplit par dans la faiblesse, dans l'abaissement, parce que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes, alors que il en est tout autrement de la puissance du roi Messie dans cette vue pharisienne. Donc je crois que c'est très intéressant de ne pas avoir de pensée réductrice en la matière et d'étudier, de comparer ces deux visions messianiques parce qu'elles nous éclairent sur le conflit entre les pharisiens et Jésus qui parcourt tout l'Évangile finalement et qui est présent dans toute la vie terrestre du Christ. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Nous continuerons donc notre parcours dans les paraboles de l'Évangile de saint Matthieu la prochaine fois. Je rappelle que si vous avez des questions à me poser, vous pouvez le faire par SMS au 06 76 47 03 55.